Bonjour, je suis Chloé Frélon de URL et je suis l'invitée de Charlène et Geneviève pour Hiring Stories Podcast.
Bonjour Chloé.
Salut Charlène.
Bonjour.
Salut Geneviève.
Chloé, si tu pouvais nous expliquer rapidement qui est Chloé et puis aussi qui est URL, qu'est-ce que ça fait dans la vie?
Qu'est-ce que ça mange en hiver? URL, c'est la compagnie que j'ai fondée, qui est un cabinet conseil en équité, diversité et inclusion, spécifiquement pour l'industrie technologique. Fait que j'imagine qu'on verra un peu plus en détail dans les prochaines minutes ce qu'on fait exactement. Qu'est-ce que je fais dans la vie à part ça? Je suis chroniqueuse techno à Radio-Canada, ici première, et à Québec Science. Je fais toute ma carrière en technologie, dans le web, dans le numérique. Puis c'est notamment parce que j'ai constaté un manque flagrant de diversité dans ce domaine-là que je me suis retrouvée à créer cette entreprise.
Chloé, pour toi, qu'est-ce que c'est la définition de la diversité et l'inclusion?
C'est une bonne question à poser. C'est tellement une question que je me fais poser très régulièrement. La réponse, c'est que ça dépend. Puis j'encourage les entreprises à déterminer ce que ça veut dire la diversité pour chaque organisation. Il n'y a pas de définition écrite, canée, puis qui ne bougera pas pendant des années. La définition à laquelle on pourrait, par exemple, toutes les trois penser, elle serait différente de celle qu'on aurait pu penser il y a 2 ans et dans 2 ans également. Ça évolue avec la société, ça évolue avec les sensibilités de chacun et chacune. Ça évolue avec les nouvelles voix qu'on écoute alors qu'on les ignorait avant. En fait, c'est ça qui évolue. Dans mon domaine, on parle de EDI, là, équité, diversité et inclusion. Pour faire un petit côté vocabulaire avec ça, la diversité, c'est ce qui se ramène à l'individu finalement. Les origines, la religion, l'éducation, classe sociale, etc., etc. Donc dedans, il y a des attributs qui sont visibles, puis il y a des attributs qui sont invisibles. C'est généralement sur ces points-là où il peut y avoir de la discrimination. L'inclusion, c'est faire en sorte que tout le monde se sente bien. On peut dire qu'une entreprise est inclusive lorsque toutes ces personnes qui sont différentes, donc là, voir la définition de la diversité, se sent bien de performer, de dire ce qu'il ou elle veut dire, sans peur de représailles. Et l'équité, donc, c'est avoir des processus, des politiques, des procédures qui font en sorte que toutes ces personnes-là soient mises sur un même pied et les chances égales de se développer, de continuer dans l'entreprise. Puis, j'aime ça donner un exemple un peu plus concret lié à notre domaine. Si on considère une entreprise qui, le patron dit, ben moi, pour la négociation salariale, mon bureau est ouvert, les gens peuvent venir quand ils veulent négocier leur salaire. Fait qu'a priori, on se dit, ben, c'est ouvert, c'est égal, c'est égalitaire, etc. Sauf que finalement, on se rend compte petit à petit que c'est toujours les mêmes personnes qui viennent frapper à sa porte pour négocier leur salaire. Fait que là, il se dit, OK, ben c'est peut-être parce que, dans le fond, tout le monde n'est pas capable de venir négocier un salaire. Parfait, je vais mettre en place des formations pour apprendre aux gens à négocier leur salaire. Puis comme ça, je me retrouve à créer un environnement de travail équitable. C'est très bien, c'est très intéressant comme piste de solution, mais il y en aurait encore une autre qui pourrait être encore plus intéressante, c'est juste d'abolir le fait de devoir négocier son salaire, créer des échelles salariales et des moments établis dans l'année où tout le monde peut venir négocier son salaire finalement. Donc, c'est là où on devient, c'est le E de EDI, équitable, où on vient mettre tout le monde sur un pied d'égalité.
Dans le contexte actuel, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à réagir que c'est plus possible, puis qu'il faut absolument mettre en place des mesures pour favoriser l'inclusion, la diversité, la parité. Quoi, encore plus en ce moment, la presse fait état de beaucoup de situations anormales. Est-ce que tu as constaté toi aussi une prise de conscience un peu plus de l'opinion publique, ou est-ce que pour toi les choses sont exactement comme elles étaient il y a, mettons, 2 ans quand tu te posais les mêmes questions?
Oui, non, définitivement, on est dans un momentum en ce moment-là. C'est triste à dire, mais apparemment, il faut se retrouver au fond du baril pour avoir des conversations là-dessus. Je pense, somme toute, très humain, dans le fond. Tant que c'est pas assez gênant, assez dérangeant, ben, on s'attaque pas à un problème. Les personnes qui vivent ce problème-là, qui en subissent les conséquences, eux, font valoir leur volonté depuis plusieurs années, mais c'est souvent pas ces personnes-là qui sont à la tête des entreprises ou à la tête de nos de nos pays non plus. Donc finalement, leurs voix sont ont une portée très limitée. Donc on constate largement en ce moment, finalement, c'est que ce que ces personnes-là disent depuis longtemps, c'est que la diversité, c'est bon pour les affaires. Et que si on ne fait pas attention à tous ces enjeux-là, ça peut se retrouver négatif sur l'entreprise. Et c'est ce qu'on constate en fait en ce moment. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'entreprises qui se sentent conscientisées et que je reçois beaucoup plus de courriels qu'à l'habitude. C'est que là, tout d'un coup, on vient toucher à la capacité de l'entreprise de pouvoir continuer à exister, d'avoir une bonne perception vis-à-vis de l'extérieur, puis de pouvoir continuer à produire leurs services ou leurs produits et à être performants finalement.
À quel niveau d'intervention, où est-ce que vous intervenez exactement avec URL, c'est le cabinet en diversité et inclusion, mais concrètement, en fait, à quoi ça peut ressembler une intervention chez vous?
C'est large, puis c'est divers. En fait, les entreprises sont toutes différentes. On peut penser à celle qui a une start-up d'une vingtaine d'employés jusqu'à la corporation. Donc, parce qu'elles sont différentes, elles n'ont pas les mêmes enjeux. Ça fait certaines vont peut-être commencer à s'attaquer à ces enjeux-là aujourd'hui. D'autres l'ont fait il y a 5 ans. Les sensibilités de chacun sont différentes. Plus ce sera diversifié en termes d'âge moyen des employés, de leur provenance, tout le monde va avoir une compréhension différente. Fait que tout ça, ça fait que finalement, il n'y a pas vraiment une solution fit all qui existe, mais il y a finalement une stratégie à mettre en place. Et puis cette stratégie, elle commence comme n'importe quelle stratégie à comprendre. C'est quoi ce milieu de travail-là? Pourquoi il y a des enjeux? Ils sont causés par quelles 1, 2, 3, 4, 5 raisons? Et comment on peut finalement mettre en place un plan d'action pour adresser ces enjeux-là? Souvent, le point de départ actuel est très lié évidemment au harcèlement psychologique et sexuel, mais avant qu'on se retrouve dans cette actualité-là, le point de départ était souvent lié au recrutement. Comment ça se fait que mon entreprise a une main-d'œuvre aussi homogène? Ça, il y a un moment, une conscientisation par l'organisation qui dit, ben, coudonc, comment je suis arrivée à ça? Manifestement, j'ai un problème. Quel est mon problème? Puis ça part souvent de ça. Et évidemment, l'homogénéité de la main-d'œuvre, ben, c'est finalement un symptôme, hein, c'est pas une cause. Et c'est généralement le top de l'iceberg. Les raisons sont beaucoup plus profondes et ancrées, enracinées finalement dans l'entreprise.
Au niveau, justement, tu parlais du recrutement puis de l'homogénéité de la main-d'œuvre. Pour un spécialiste en recrutement ou un VPRH qui voudrait implémenter plus de diversité, par exemple, je prends la diversité, dans sa pratique, dans son processus de recrutement au sein de l'organisation, est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées plus concrètes sur le processus, soit pour enlever des biais de perception ou influencer ses gestionnaires, ou est-ce que tu as des choses que tu pourrais nous partager là-dessus que tu as constaté qui ont eu un impact efficace sur plus de diversité dans un processus de recrutement ou favoriser la diversité?
Je vais répondre à ta question, mais je vais dire quelque chose en amont. Souvent, je vous le disais, c'est le point de départ, le recrutement, mais ça ne devrait pas, dans la mise en place d'un plan de solution, ça ne devrait pas être le premier, en fait. Le premier devrait être la rétention. Puis, si je peux faire une comparaison là-dessus, c'est tu viens d'acheter une maison, tu veux la rendre belle, propre, que tout soit fonctionnel avant d'inviter la visite à venir te voir. Ça sera beaucoup plus facile de recruter si à l'intérieur de l'entreprise, les processus sont sains, la culture est inclusive, puis tout le monde est heureux parce que organiquement, ça va devenir évidemment des ambassadrices, ambassadeurs de ta marque, puis de ton entreprise. Généralement, les entreprises veulent toujours rusher vers « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour mon recrutement ?» Mais halte là, on va prendre quelques temps d'abord pour travailler sur l'inclusion et la rétention. Ou plutôt, comme Vincent Mazeroux aime à dire, la fidélisation et pas la rétention, parce que il nous dit qu'on n'est pas enchaîné à notre entreprise. C'était un petit clin d'œil à Vincent. Mettons que là, on a passé tout le côté inclusion, puis qu'on est rendu l'attraction des talents. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut déjà regarder nos chiffres, puis se demander où est-ce que le bas blesse? Où est le problème? Est-ce que quand je poste une annonce de job, je reçois des CV hyper homogènes ou diversifiés? Si je reçois des CV homogènes, on peut se dire que la façon dont mon entreprise est perçue, ce que je renvoie comme image, ma communication, etc., elle est peut-être pas optimale pour aller chercher ces groupes marginalisés. Ou alors, ok, oui, je reçois des CV, mais lorsque je fais l'offre d'embauche, jamais ou très rarement, elle est acceptée par ces personnes-là. Ok, ben alors ça, probablement que c'est parce que entre le moment où tu as posté ton annonce de job et que tu fais l'offre, il s'est passé des choses qui sont finalement un peu turn off pour l'employé.
Claude, je m'excuse de t'interrompre, mais quand tu parles de communication, est-ce que tu parles de communication juste de la description de poste ou des communications en général sur les réseaux sociaux de l'entreprise?
Ben c'est ça, c'est en fait c'est un tout, hein, et c'est jamais c'est un ensemble de solutions que tu appliques pour changer quelque chose, mais je vais pouvoir te répondre après à ça, parce que donc maintenant tu invites le candidat à répondre positivement à ton offre, mais finalement le candidat dit non. Ça, c'est donc l'indication que le processus s'est mal passé. Et après, combien de temps cette personne-là va rester en poste, ça va te dire si finalement ce que toute la promesse qu'on a fait en amont de ce qu'allait être l'entreprise et son expérience, ben peut-être que c'est pas ça finalement. Et donc là, ça va être plus une question de culture d'entreprise et puis de là où il va falloir aller chercher. Mais donc, si on revient à ce que tu me demandais, Geneviève, sur la communication, mais ça, en fait, c'est plein de facteurs. Ça peut être comment, en tant qu'entreprise, on parle de toi sur les médias sociaux, comment tu parles de toi-même à travers tous tes canaux de communication. Et évidemment, plus précisément, sur la page, mettons, carrière de l'entreprise, sur l'annonce de job et qu'est-ce que cette fameuse annonce de job va comporter. Et c'est là où il y a plein de détails très inconscients qui peuvent s'aiguiser, qui peuvent faire basculer l'intérêt d'un ou d'une candidate.
Je me suis souvent fait poser la question et je me la suis posée moi-même. Mettons que tu fais face à quelqu'un que tu présumes faire partie d'une minorité. Son appartenance à une minorité n'est pas forcément visible, tu sais, c'est pas forcément évident. Comment tu fais pour donner de la visibilité justement dans ton processus? Comment tu fais pour créer un lien entre la culture de ton entreprise, ton processus de recrutement et cette personne-là pour refléter ou lui montrer, comment dire, le bien-être ou les mesures que tu as mis en place finalement d'inclusion, de diversité, de culture saine? Comment tu fais pour... Je veux pas dire prouver, parce qu'on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, mais pour lui donner l'impression ou les reflets positifs que les choses ont été faites au sein de l'entreprise.
Ben, en fait, oui, il faut que tu prouves quand même quelque chose. De nos jours, là, rares sont les entreprises qui vont pas dire « la diversité est au cœur de nos valeurs », n'est-ce pas? On le voit absolument partout. Mais dans les faits, celles qui ont vraiment la diversité au cœur de leurs valeurs, profondément, elles sont beaucoup, beaucoup plus rares que celles qui le disent. Et lorsqu'on est une personne d'un groupe marginalisé, cette phrase-là, on en a un peu marre. Tu sais, on en a marre de l'entendre tout le temps, puis on sait qu'il y a des situations où c'est du vent et puis qu'elle est reposée sur rien. En fait, pour ces personnes-là, il va falloir prouver que c'est reposé sur quelque chose de véridique. Puis, assez étrangement et ironiquement, c'est souvent les entreprises qui en font le plus, qui en disent le moins. Et je vais prendre l'exemple de Lightspeed. Lightspeed, on sait qu'ils sont inclusifs, qu'ils sont ultra diversifiés, mais ils communiquent pas là-dessus, en fait. En fait, ils sont tellement bons à être ça qu'ils ont même plus besoin de communiquer spécifiquement ou d'avoir un plan d'action, parce que c'est probablement quelque chose qu'ils avaient décidé consciemment ou inconsciemment dès les débuts de l'entreprise. Souvent, c'est des autres entreprises qui sont bonnes là-dessus, ont pas une personne en charge. Ça, on le voit là, les Head of Diversity, Diversity in Chief, etc. Par exemple, Slack, l'entreprise de technologie, n'en a personne en charge. Et pourtant, il y a une couple d'années, ils avaient sorti leurs chiffres de représentativité dans leurs employés. Puis, ils avaient 33,5% de femmes en poste technique. Puis, la moyenne, normalement, est 20%. Donc, ils étaient excellents. Et ils attribuaient ça au fait qu'ils avaient donné la directive à personne d'être en charge de la diversité. Tout le monde était en charge de la diversité. Parce que lorsqu'on désigne quelqu'un, ben, on déresponsabilise les autres d'endosser cet enjeu-là. Et il faut évidemment, à la base de tout ça, que ça vienne d'en haut de l'entreprise, que la direction décide vraiment que c'est un enjeu adressé, que c'est pas seulement un mot dans une liste de valeurs de l'entreprise, et que ce soit ancré dans les décisions d'affaires de l'entreprise. C'est là où on voit que c'est le plus prospère puis le plus pérenne possible, finalement. Les questions de EDI, c'est parce qu'elles sont inscrites dans les besoins d'affaires de l'entreprise. Donc, tout comme on dit, on veut faire de l'argent parce qu'on est une entreprise incorporée à profit. On veut avoir une main-d'œuvre hétérogène qui représente l'entièreté de la société et du marché qu'on veut conquérir parce que on considère que c'est une bonne décision d'affaires et blablabla, etc. Il y a plein de façons de baquer ça. Ça part souvent d'un sentiment de vouloir le faire pour la cause, pour des bonnes raisons sociales. C'est important que ça parte de ça, effectivement, mais ça ne doit pas être uniquement les raisons pour lesquelles on met en place ces politiques, parce que sinon, le jour où la personne qui le fait pour la cause, elle s'en va de l'entreprise, et ben cette cause-là, elle disparaît, puis elle s'en va, ou alors elle ne sera pas menée de front comme les autres enjeux. Donc, c'est pour ça que ça doit faire partie de la planification stratégique, finalement.
Je rappelle, au meet-up, on avait parlé de la nécessité de surreprésenter les femmes dans ton processus, de présenter plus de candidats à femmes à cause des biais. Tu sais, t'avais expliqué qu'au final, d'en présenter plus que, c'est 3 fois plus, je pense, ou 2 fois plus.
Si tu te rends compte que, par exemple, ta main-d'œuvre est ultra homogène, puis que tu voudrais la rendre plus hétérogène, sur l'ensemble de 10 CV à présenter à ton gestionnaire, la personne marginalisée, elle est au nombre de 1. En fait, elle va être invisibilisée dans le processus. Elle va pas sortir du lot. Mais si tu prends 3 à 4 personnes de ce groupe marginalisé que tu vises et que tu le présentes à ton gestionnaire, là, tout d'un coup, c'est bien inconscient. On se tasser un petit peu, puis faire qu'il va vraiment considérer ce groupe marginalisé.
Donc, c'est faire un choix en tant que recruteur de prendre le temps aussi, si c'est possible. Je le sais que le recrutement, c'est une question de temps, mais de prendre peut-être quelques moments de plus pour être capable de présenter plus de candidats de groupes marginalisés pour influencer les biais de perception du gestionnaire, en fait.
Exactement ça. Puis, c'est vraiment difficile. Hein. En fait, pour moi, c'est facile de vous dire c'est ça qu'il faut faire, évidemment, mais je sais très bien que c'est une tâche difficile. Puis, si ce n'était pas difficile, ce serait répandu dans l'entièreté des entreprises. Là, fait que c'est certain que c'est un enjeu, mais il faut le voir comme un investissement de son temps. Puis, lorsqu'on se met à établir, par exemple, des listes pour des chasseurs de tête, des listes de personnes marginalisées, ça servira pour un prochain mandat. C'est jamais perdu, finalement. Les mouvements sociaux actuels nous prouvent que cet enjeu de représentation de l'entièreté de notre société va pas disparaître du jour au lendemain. Ça va devenir de plus en plus au front de nos discussions, puis de la pression des employés qui veulent travailler pour des entreprises qui représentent la société également, finalement.
C'est super intéressant. Avec tout ce qui s'est passé récemment, j'ai fait le constat pour ma propre entreprise, en fait. Je me suis dit, voyons, que se passe-t-il? Mais tu sais, je t'avais déjà entendu dire dans une autre entrevue aussi que tu parlais des femmes en tech, qu'il n'y en avait pas assez, mais on a un réseau, en fait, puis quand notre réseau, souvent, est représentatif un peu de la culture d'où on vient, etc., puis quand on fait pas un effort pour l'agrandir, ce réseau-là, ben c'est difficile d'aller chercher d'autres gens à l'extérieur, justement, que ce soit francophone, anglophone, tu sais, différentes communautés culturelles, etc. Mais c'est pas évident quand même. Puis quand tu disais, tu sais, bon, pour le recrutement, c'est une chose, mais c'est vrai que ça part de plus haut, en fait, parce que si la direction de l'entreprise, ça fait pas partie nécessairement de ses... Ouais, même pas de ses priorités, mais des fois, c'est même pas un constat que l'entreprise, la direction peut avoir fait. Elle peut juste ne pas l'avoir fait encore. Puis, tu sais, il y a toujours une espèce de, des fois, un malaise où on sait pas exactement comment aborder ce sujet-là. Des fois, peut-être comme employé, on sait pas trop comment l'amener à la direction, etc. Tu sais, des trucs, en fait, ou des choses, tu sais, on sait pas trop ce qu'on peut dire, ce qu'il faut pas dire, les termes à utiliser, etc. Que moi, je le sens dans différentes conversations, et même celles que je suis en train d'avoir là, il y a des fois un malaise, en fait, dans les mots qu'on doit choisir, qu'on peut choisir. Comment tu aborderais ça, en fait? Ou quel truc, quel conseil tu donnerais, par exemple, aux employés qui disent, ben moi, chez nous, c'est pas tellement diversifié, mais j'aimerais ça en parler parce que peut-être qu'on s'en est juste pas rendu compte encore.
Ben, tu sais, le malaise du choix des mots, que nos paroles reflètent vraiment une pensée, puis ostracisent pas un groupe de personnes, c'est un très bon réflexe. En fait, si vous vous sentez mal à l'aise, c'est parfait. C'est ça qu'on veut ressentir. On veut ressentir le malaise parce que ça veut dire qu'on est en train de toucher à quelque chose d'important. Et un sujet dont on parle pas souvent. Donc, il faut embrasser ce malaise-là et puis se sentir bien avec ça. On est dans la bonne direction. C'est une super bonne question que tu poses parce que je l'entends assez souvent finalement. Qu'est-ce qui se passe si en tant qu'employé, moi je veux ça, mais que ma direction, elle a pas encore réalisé? D'abord, on est plus fort en groupe. On veut ne pas aller voir la direction seule, généralement. Allez chercher 2-3 alliés, 4-5 alliés, ça dépendamment du groupe que vous êtes, et allez parler en tant que groupe. C'est beaucoup plus difficile d'ignorer 5 personnes que d'ignorer une personne. Puis, on veut garder ça de façon positive et constructive. Probablement qu'à la base de tout ça, il y a un peu de sentiments négatifs, de frustration, de « coudon, pourquoi c'est comme ça chez nous, blablabla », mais on veut quand même prendre une bonne respiration, puis amener ça positivement parce que ce ne sera pas pris de la bonne façon si on arrive fâché. Ce sera vu comme un affrontement et puis les gens vont se mettre en processus pour se défendre. « Oh non, mais regarde, l'année dernière, on a embauché. » Ou, t'sais, et puis de toute façon, à la fin, on ne va pas avoir ce qu'on cherche. Le troisième conseil que je donnerais, c'est faites un petit peu vos devoirs en amont. Essayez de voir quelles sont les possibilités de solutions qui existent. Parce que tout comme n'importe quoi, quand on va voir sa direction, qu'on pointe du doigt un problème, c'est bon de présenter une partie de la solution, même si ce n'est pas la solution parfaite. Ça prouve qu'on est dans une démarche de résolution, finalement.
Justement, on parle d'être plus inclusif et en tout cas de mieux communiquer sur tout ça. Si je suis un recruteur et que j'ai des candidats dans mon processus, c'est comme un peu délicat. Je me dis, OK, mais comment je fais en tant que recruteur pour identifier que la personne appartient à un groupe marginal? Est-ce que je lui demande? Est-ce qu'en lui demandant, je suis pas déjà en train de discriminer cette personne-là en supposant quelque chose? Elle est où la limite là-dedans? Puis elle est où la limite légale aussi? Est-ce qu'il y a des choses à faire attention en tant que recruteur en particulier avec nos suppositions et ou biais? Et à l'inverse, de se dire, ben, je veux bien faire, j'ai le feeling que je devrais appuyer un point particulier sur mes mesures internes d'inclusion, d'équité et de diversité en parlant à cette personne-là. Comment je fais? C'est quoi l'action item ou quelque chose?
D'abord, si tu veux mettre de l'avant certaines pratiques, par exemple inclusives, ben en fait, tu peux le dire à tout le monde. Ça peut faire partie de ton processus de recrutement, finalement, quand tu reçois la personne ou quand tu lui parles. Tu as bien raison, il y a des caractéristiques qui nous rendent différents, qui ne sont pas forcément visibles. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas être identifiés par ces caractéristiques. Donc, même si tu leur demandais, ils diraient non, parce que moi, je ne veux pas être identifié par ma couleur de peau, par exemple. Finalement, tu veux que tout ce que tu auras annoncé ou promis, entre guillemets, au candidat sur ton site web, à travers ton annonce de job, tout ça soit corroboré le moment où tu vas la rencontrer, cette personne-là, finalement. Il faut toujours garder en tête, en fait, ça demande beaucoup d'empathie puis se mettre dans les souliers des autres. Quand on est une personne marginalisée dans un groupe de travail ou dans une industrie, c'est vraiment extrêmement difficile, finalement. Tu es toujours en train de porter le poids de tout le groupe que tu représentes. Si tu échoues, tu vas échouer au nom de tout le groupe. Tu as probablement déjà connu des expériences pas le fun dans d'autres entreprises. Donc, tu es un peu frileux, etc. Donc, c'est vraiment difficile. Il faut d'autant plus faire attention à ce que cette personne-là aurait pu vivre dans le passé et s'assurer qu'elle ne va pas vivre ça à nouveau. Si tu ne peux pas identifier, tu ne peux pas demander ça. C'est très incorrect. C'est borderline illégal, à mon avis. Donc, en fait, tu donnes la même information à tout le monde. Et comme ça, tu seras sûr que la personne qui doit l'entendre va finalement l'entendre.
Ça répond super bien à ma question. Chloé, j'espère qu'on a aidé, en tout cas, les gens qui nous écoutent à peut-être avoir soit des réflexions, soit déjà des choses concrètes qui pourraient amener comme piste de solution, soit à leur entreprise, soit à leurs collaborateurs ou à leurs amis, même dans des discussions concrètes. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui se rendent en ce moment-là dans les cercles privés et dans les cercles professionnels. De toute façon, si vous êtes intéressé à en savoir plus, Chloé, je vais indiquer tes coordonnées directement dans la publication le site web et ou les médias sociaux du RL. Avec plaisir. Puis je te remercie d'avoir pris le temps de parler de ce sujet-là avec nous. Je pense que chaque professionnel en RH et en recrutement en ce moment se sent concerné plus que jamais.
Si je peux ajouter là-dessus aussi, c'est super intéressant. Vraiment, je pense que tout le monde devrait te contacter pour prendre des informations sur le service. Mais surtout, en fait, tu l'as dit, Charlène, ça passe de discussion dans la sphère privée à la sphère publique, en fait. Puis c'est ça que moi, je trouve personnellement encourageant, en fait, parce que je me dis autant que ce soit sur l'équité, la diversité, l'inclusion, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore, mais au moins, du moins qu'on en parle, puis il y a des campagnes comme URL qui soient créées. Je pense que définitivement, on avance, au moins probablement, dans la bonne direction. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous d'avoir choisi de traiter ça dans votre épisode.
Hiring Stories est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Play.